8h13, Radio Panique, les promesses de l'aube. Et donc, on a installé nos invités en studio. Nos invités, c'est la librairie Météor. Ils sont deux. Bonjour Renaud Selim, bonjour Timour. Est-ce que vos micros fonctionnent?
Est-ce que vous pouvez parler un peu dans les micros
allô,
comme
allô.
Ça
les micros jaunes un peu plus fort,
sans doute. Ouais. Vas-y, vas-y.
Ça marche?
Oui, ça marche. Ça marche okay, parfaitement, okay. Voilà. Et les micros rouges aussi fonctionnent.
Ouais,
ça marche aussi. Okay. Alors,
bon, voilà, c'est magique. Donc vous êtes deux, vous êtes, je vous ai présenté comme la librairie Météor, c'est sans doute un peu réducteur. Qui êtes-vous?
Alors on est deux frères déjà, et à part ça, on a travaillé souvent dans les salons du livre, et je crois que c'est de là qu'est venu entre autres, avec nos intérêts pour le livre, mais pour aussi les questions philosophiques, politiques et littéraires en sens, assez circonscrit, qu'on a voulu fonder Météor. Et peut-être que tu m'auras des trucs à rajouter.
Oui, en gros c'est ça, et on a commencé au même endroit l'année passée à faire le festival de littérature indépendante belge, avec les associations avec lesquelles on travaillait sur les marchés du livre, etc. Et du coup c'est notre première expérience qui ressemblait un peu à la librairie et au café à l'époque. Et donc ça a bien marché, il y avait une bonne dynamique, et on s'est dit pourquoi pas essayer de relancer le truc un peu différemment, encore un peu plus à notre sauce.
Et oui, je sais pas si...
Non, mais voilà, et donc vous avez trouvé un local, vous vous êtes installé dans le pire moment.
On est revenu au même endroit que l'année passée, ouais. Donc ça nous tenait quand même à cœur, ça. On a visité d'autres trucs, mais ça n'était jamais aussi bien.
C'était très compliqué, ça.
Oui, ça a été compliqué.
Donc là, c'est un petit local rue Blas, pas loin de la place du jeu de balle.
C'est ça. Exactement. C'est au 207 rue Blas.
Un ancien magasin de pantalons, je sais pas, enfin il y a une enseigne assez fantastique.
Alors en fait, bon, il faut savoir que la rue Blas, la rue Haute, à une époque était une rue du textile très fort, et c'est vrai qu'il y a encore un enseigne qui est classé là, qui s'appelle le roi du pantalon. Donc on peut pas la manquer.
Non, le palais du pantalon.
Le palais du pantalon. Parce que en fait, je crois qu'on la voit l'enseigne quasiment depuis la chapelle, si on est en rue, si le temps est dégagé.
Ok.
Et puis l'intérieur, double vitrine, comme ça. Enfin, c'est un lieu qui a beaucoup de cachets, qui est très brolique. Hein, comme...
Ouais, non,
mais c'est ce qu'on aimait aussi.
Voilà, avec. Sur ce côté esthétique aussi, enfin, votre table à carreaux bleu blanc qui est devenue aussi représentative de la librairie dans vos postes où.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Vous exposez vos livres dessus.
Oui,
en fait, il faut savoir qu'au. Donc, on a déjà été dans ce local-là pour le Festival de littérature indépendante belge avec les éditeurs Singuliers en 2019. C'était septembre, décembre 2019. Et puis, il y a eu le Covid, le confinement. Et c'est pendant ce temps-là qu'on a un peu réfléchi plus sérieusement au projet de vraiment installer une librairie-là. Et donc, on est revenu dans ce lieu-là, en fait, un peu en dernière minute. Parce qu'on le voulait, mais on savait pas qu'il était à louer. Parce que c'était des amis qu'il avait avant, ils étaient partis, etc., etc. Et au début... Ça l'a été un peu d'ailleurs, on comptait faire une librairie café, une librairie associative avec des moments culturels. Et donc c'est vrai qu'on a acheté, on a trouvé, on a été chiné pas mal de tables. On voulait un style pas trop Ikea, et donc du coup on a vu le marché du jeu de balle, etc. Et on a trouvé ces magnifiques tables à carreaux damés comme ça, qui sont maintenant ce qu'on a décidé de garder de l'espace café pour en faire un truc emblématique quand on poste des...
Oui, parce qu'avant, c'était des tables qui servaient à accueillir des gens. Et à partir du moment où il y a eu le deuxième confinement, ou un des confinements, où l'Horeca a dû fermer, etc., et petit à petit, toute la culture a dû fermer, on s'est dit, bon, ben, on va utiliser les tables pour poser des livres dessus. Donc, il y a pire comme utilisation de table, mais symboliquement, c'était quand même quelque chose. Et du coup, c'est resté, effectivement.
Donc ouais, dans le projet initial où ça va revenir, je ne sais pas. Donc cette partie café, espace de dire, tu vois, enfin, la librairie, c'est pas uniquement un espace où on prend des livres dans les rayons, c'est aussi un espace où on discute.
Oui, en tout cas, enfin, quand on discutait de tout ça au début, quand on voulait refaire, faire quelque chose de cet ordre-là, ça paraissait nécessaire que la librairie ne soit pas qu'un commerce finalement, même si c'est une partie du truc, et que ce soit un lieu où il puisse se passer des choses, parce que enfin voilà, la culture, ça veut, enfin on la définit comme on veut, mais je pense que c'est important qu'elle soit accompagnée non pas que de noms propres, de livres, de d'idées, etc., mais qu'elle soit accompagnée très concrètement d'une présence dans un lieu, dans des lieux, d'échanges simples, tout simplement. Ouais.
Donc, oui, c'était pas l'idée de faire un truc très avec librairie café avec beaucoup de prétention ou d'inviter des grosses pointures, quoi que ce soit. C'était d'ailleurs l'espace le montre. C'était vraiment d'accueillir quelque chose, presque quel qu'il soit, à partir effectivement, par contre, souvent d'une idée littéraire ou d'une idée qu'on pourrait appeler de manière assez grossière culturelle, et montrer que, en fait, parce que le livre est vraiment un échange en tant que tel aussi, mais du coup, c'est vraiment de brancher les deux, quoi.
Et là, justement, enfin, donc, sur le, enfin, tu dis littéraire, culturel, il y a aussi, quand on, enfin, tu sautes aux yeux quand on regarde ce qui peut être exposé dès les vitrines, un espèce, enfin, un côté très militant ou engagé. C'est, enfin, ouais, quel, s'il y a une ligne, quels sont vos livres ?
Alors, la question de la ligne, elle est toujours un peu compliquée, parce qu'on nous le demande souvent. On nous demande parfois si on est spécialisé. En fait, on n'est pas exactement spécialisé, mais c'est vrai qu'on a déjà une ligne qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on a tout choisi de A à Z quasiment depuis le début, tous les deux, donc avec forcément des idées qu'on partageait avec d'autres, qui nous semblaient importantes de partager.
Après, des idées que vous ne partagez pas aussi.
Oui, bien sûr, avec des gens que je ne partageais pas, oui. Et c'est important aussi. Et donc après, est-ce qu'on est engagé, est-ce que j'aime bien le mot à la limite activiste, dans le sens où, enfin, c'est un peu pédant, mais dans le sens où on entend l'activation, quoi. C'est un livre qui active quelque chose, qui peut activer une sensibilité, et même si elle est déjà là, déjà en travail ou quoi, enfin, et je trouve que c'est pas mal de dire activiste finalement.
Donc très concrètement, on a pu au fil des mois quand même retrouver par exemple, enfin, des tables thématiques anticarcérales ou sur le nucléaire. Ça se fait au gré comme ça ou à l'occasion d'événements ou...
Je crois que c'est un peu au gré des sensibilités, mais aussi au gré des événements et aussi au gré de ce qui nous active dès le départ, avant même cette librairie. C'est-à-dire que, par exemple, tu évoques les tables carcérales, ça fait un moment qu'on, ou que je suis actif dans les milieux qu'on pourrait dire anticarcéraux ou abolitionnistes, etc. Ah, c'est à part, d'ailleurs, la librairie Météor est devenue l'un des points centraux de distribution d'une revue qui s'appelle La Brèche, qui est une revue d'information sur les questions carcérales. Nucléaire, on a tous les deux étudié philo dans une lignée qu'on pourrait appeler l'écologie sociale, pour faire encore une fois assez bref et large. Et donc effectivement, on va retrouver souvent, très souvent, ce genre de thèmes qui reviennent.
Mais ça permet justement d'élargir ou de se, enfin, pas nécessairement spécialiser, mais élargir le spectre des livres qui sont présentés au-delà de maisons d'édition qu'on peut retrouver facilement partout, même dans les livres engagés ou militants, mais voilà, enfin, de justement, enfin, passer par des maisons d'édition. Enfin, tu parlais de La Brèche là à Lille.
Non, en fait, j'ai entendu parler de La Brèche à Lille, mais en fait, il y a aussi une brèche à Bruxelles.
Ok, voilà.
Qui a déjà fait 3 numéros en Belgique. En Belgique, qui était une revue à prix libre, mais assez conséquente, qui fait une centaine de pages, et qui est un collectif qui s'organise autour, dont je fais partie, qui s'organise autour des questions carcérales.
Ok, donc pour revenir, ça permet justement, enfin, d'élargir le spectre des éditeurs, éditions, mais présentés.
Je crois qu'en fait, une de nos particularités, c'est effectivement de mettre l'accent plus sur ce qu'on appellerait les éditions indépendantes, même si on va retrouver du Gallimard, du Folio, etc. Et que ces éditions indépendantes, en général, on peut les retrouver facilement, malgré tout, ailleurs. Ça, c'est vrai, dans d'autres librairies indépendantes. Mais par contre, on va aussi avoir quelques particularités qu'on a été chiné à droite ou à gauche. Par contre, je crois que là où il y a une différence, c'est qu'on fait presque un travail, je vais pas appeler curatorial, mais éditorial, de vraiment sélectionner, d'arriver à créer des espèces de fils rouges entre les livres, entre les thématiques. Et quand on fait des tables particulièrement, ben voilà, c'est vraiment de proposer différents angles d'approche directement dans un sujet. Ça, je crois que c'est une des particularités. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut s'appeler une librairie de fond. C'est-à-dire qu'on fait pas beaucoup de nouveautés. Mm-hmm. Enfin, en sciences humaines un peu, etc., on va en faire, mais c'est plus, ok, quels sont les livres qui pour nous doivent être tout le temps là, quoi. Et c'est un peu là-dessus qu'on travaille, plutôt que sur un roulement continu.
Ouais, qui serait un peu la démarche des éditeurs, enfin, et de l'édition en général, de.
C'est ça.
Ou de compresseurs de nouveautés.
C'est ça.
Constante.
C'est ça.
Et qui fait qu'on retrouve justement pas après un an, on ne retrouve déjà plus.
C'est ça.
Un livre.
Exactement. Bon, après, c'est compliqué parce que malgré tout, en fait, même les petits éditeurs indépendants qu'on aime travaillent sur la nouveauté. C'est comme ça qu'ils vivent aussi. Nous, en fait, aussi, dès qu'il y a une nouveauté, par exemple, chez La Fabrique, bah voilà, on va la prendre en général. Peut-être pas toutes, pas systématiquement, mais on va quand même les prendre. Mais par contre, c'est vrai que sur le long terme, il y a des choses qu'on ne prendra plus parce qu'on sait qu'elles sont que de l'ordre de la nouveauté. Il y a beaucoup de livres qui ne sont que de l'ordre de la nouveauté. Et il y a des livres qui, pour nous, sont des fondamentaux et qui, donc, du coup, tu retrouveras. Et ça, c'est peut-être la différence.
Ouais, et justement, enfin bref, je sais pas si on peut parler d'un livre en particulier qui, pour moi, a personnifié un peu la librairie. C'est, et je pense que c'est peut-être un des premiers livres que j'ai vu mis en avant. Je sais pas si c'était sur internet, sur votre page Facebook ou mis en façade dans la librairie, mais c'est Fukushima et ses invisibles. Que j'avais vu nulle part ailleurs et qui que j'ai vu exposé chez vous que j'ai pas pris la première fois comment ça arrive, est-ce qu'il y a comme ça des coups de cœur sur des livres particuliers?
Typiquement, Fukushima et ses invisibles en est un, pour nous deux. C'est un livre, je crois, qui est sorti même en 2016, 2015. Et tu vois, pour le coup, c'est un truc qu'on va vraiment mettre en avant, alors que c'est pas du tout une nouveauté. Bon, là, en plus, on était aux 10 ans de Fukushima, donc c'était aussi une occasion pour le ressortir. Et pour nous, déjà, alors c'est une maison d'édition qui est assez incroyable, qui s'appelle Les Éditions des Mondes d'Affaires, qui a aussi réédité récemment Araoué, mais qui a aussi édité des cahiers d'enquête pragmatique, dont fait partie d'ailleurs Fukushima est invisible, et La colonisation des savoirs, qui est un livre incroyable. Et Fukushima est invisible, pour moi, c'est un livre qui sort du commun pour la question nucléaire, qui m'intéresse aussi pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont réussi à faire une espèce de recueil de témoignages, analyses, réflexions à partir des gens qui ont vécu la catastrophe de Fukushima. Donc, sur des traductions depuis le japonais, ce qui est aussi assez inédit. Et on voit vraiment toutes les questions de la nucléarisation du Japon, mais aussi de la catastrophe en elle-même, de ce qui s'est passé après, pendant, comment ils répondent, qui rentre en friction dans un seul petit livre qui n'est pas très gros au final, hein, et à quel point ces questions-là résonnent avec nos questions nucléaires à nous en Belgique et peut-être même en fait finalement aujourd'hui avec les questions du Covid sur la question de la contamination, de comment lutter contre, etc.
Ce qui est très beau aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre donc de ce qu'on peut appeler sciences humaines et donc de théorie, mais que c'est vraiment la théorie qui vient d'une politique citoyenne, c'est-à-dire c'est pas forcément que des chercheurs, etc. C'est vraiment un travail sur comment en fait les gens ont dû, par la force des choses, se réapproprier politiquement un événement. Et en fait, se réapproprier politiquement un événement, c'est juste déjà se rassembler autour de quelque chose dont on n'a pas une bonne connaissance et savoir comment s'approprier une connaissance extrêmement complexe comme la radioactivité, etc., en tant que citoyen. Et donc ils ont par exemple créé des cartes pour retrouver la radioactivité qui est extrêmement mobile et fluide, etc., en citoyen. Et en fait, c'est un exemple assez incroyable de politique au sens beau du terme, ces réunions de gens, etc. Donc, enfin voilà, c'est, je trouve que c'est quand même assez important à dire aussi pour parler de ce livre. J'aimerais juste aussi souligner qu'on on vend aussi de la littérature.
Ouais, ouais, ouais. J'allais y venir. Je me disais qu'on pouvait peut-être faire une pause musicale et puis après revenir justement, sur deux aspects de votre. De votre stock, c'est ça comment le terme que tu utilisais. Donc science humaine et fiction littérature qui existe bien aussi.
C'est bien, tu lis dans mes pensées. J'étais justement en train de mettre une musique et on écoute Colin avec Gazing at Taurus. Spreading across and above them.
toujours Radio Panique, les promesses de l'aube, avec la librairie Météor, Renaud Sélim et Timour. Et donc on a bien compris qu'il y avait tout un côté sciences humaines dans la librairie, mais tu commençais à m'apostropher pour dire mais il faut pas oublier la partie littérature.
Oui, bah c'est vrai que c'est important parce qu'on a les deux, donc c'est effectivement à peu près moitié-moitié. Il y a la bande dessinée aussi. Et c'est vrai que je dirais que globalement, les livres de sciences humaines ont plus de succès au niveau de, voilà, des gens qui viennent. Ils viennent un peu plus pour la science humaine que pour la littérature. Mais on a quand même un très beau rayon littérature aussi. Même genre de sélection, on fouille, on regarde dans ce qu'on aime, dans ce qu'on nous conseille, on fait des recherches et des recherches. Et il se fait que par la force des choses, encore une fois, il y a finalement beaucoup de liens entre une certaine ambiance, en tout cas, qu'on peut retrouver en sciences humaines et en littérature. Même si c'est pas la littérature explicitement politique, il y a des véritables liens qui se font. Voilà, je pense qu'il y a une sorte d'organicité. Ouais. C'est
ça. Avec la même approche d'avoir une sélection essentielle qui reste par rapport aux nouveautés.
C'est plus compliqué d'une certaine manière, et en même temps, oui, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne bougeront pas. Après, si on propose... En général, ceux qui ne bougent pas en littérature sont vraiment des classiques, classiques, classiques. Et ça met du temps à devenir... Plus de temps à devenir un classique en littérature, mais quoique... Non, quand même.
Quoique, on a quand même déjà... Enfin, il y a quelques titres dans la sélection, je sais que je veux les voir et qui seront toujours là, à moins qu'ils soient plus disponibles un jour, mais qui seront forcément là. Après, on expérimente un peu plus parce que justement avec les nouveautés en littérature, voilà, tu parlais de la pause du travail de librairie, c'est aussi être en contact avec des diffuseurs, même si encore une fois notre sélection reste très personnel, on a quand même et cette aide là, enfin et donc on essaye parfois des trucs, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais on essaye des nouveautés, des choses qu'on connaît moins.
Et donc pour la partie travail, donc tu dis ouais, mais bon, il y a ces diffuseurs qui viennent vers vous avec leurs propositions.
Ils viennent avec un
catalogue
pour les mois à venir. Ça fait partie d'une sorte de contrat qu'on a avec les diffuseurs, et donc les diffuseurs, c'est ceux qui représentent plusieurs maisons d'édition, et donc qui ensuite font le travail de les présenter aux librairies, etc. Et donc voilà, et donc en fait il y a des diffuseurs qui connaissent vraiment nos librairies, ils sont venus, etc., et donc ils savent très bien déjà quel genre de trucs nous conseiller. Il y a ceux qui nous connaissent moins, donc là c'est un peu aussi à nous de voir, à nous de sentir un peu l'ambiance du livre qu'on a devant nous.
Il y a aussi des démarches très différentes par diffuseur, parce qu'en fait il y a des diffuseurs qui sont vraiment spécialisés en petites maisons d'édition et qui ont un rapport très important aux librairies indépendantes, et donc là les conditions vont être bonnes, le rapport va être très personnel, ils vont vraiment comprendre très vite qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qu'ils peuvent nous diriger. Il y en a d'autres avec lesquels on est obligé de travailler parce que voilà, il y a quand même des choses essentielles dedans, qui eux par contre c'est du rouleau compresseur, quoi.
Oui, j'allais demander si ces rouleaux compresseurs, du coup, enfin ces diffuseurs, vous êtes obligé de commander en fait un quota chez eux, ou est-ce que vous avez la liberté de pas le faire?
Non, on n'est jamais obligé.
On n'est pas obligé, mais disons qu'on n'est pas obligé, ça c'est clair et net. Après, en fait, dans chaque diffuseur, il y a vraiment des choses importantes. Par exemple, La Découverte, qui est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, va être chez un diffuseur qui est quand même un espèce de gros groupe. Ou alors La Volte en science-fiction, ce qui est pourtant une petite structure, fait partie d'un énorme groupe de diffusion. Et donc voilà. Et après, selon où on commande et comment on commande, nos marges vont aussi être plus grandes pour négocier nos marges. Il faut savoir qu'un libraire, en librairie, en fait, les marges, dans le métier du livre, les marges sont très très fixes. Et c'est un des métiers où les marges sont les moins grandes. Et donc, du coup, quand on passe d'une marge pour un livre de 29% à 33% pour un libraire sur un livre de 13 euros, ça fait quand même une différence.
Ouais, c'est vite significatif.
Ouais.
Et donc, ouais, il y a ce jeu avec les diffuseurs. C'est avec les diffuseurs que ça se.
C'est avec les diffuseurs que ça s'organise. Après, bon, voilà, comme je vous dis, il y en a deux ou trois qui sont vraiment. On est vraiment. C'est plus qu'un lien juste commercial. Il y a vraiment un lien d'échange des idées, de circulation des idées. Et il y en a d'autres, c'est, voilà, ils nous mâchent un peu le travail, ils nous conseillent des trucs, mais on sent que. Enfin, parfois, il faut vraiment résister pour ne pas prendre tous les livres qu'ils nous donnent, parce qu'en fait, c'est vraiment. Une logique d'office, on appelle ça une logique d'office, qui est dans les librairies, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui, il y a même des librairies qui acceptent d'office les livres, donc c'est-à-dire qu'il y a une nouveauté qui sort, bim, ça arrive dans la librairie. Ouais. Et donc, ça doit être payé dans les 3 mois, comme ça on explique un peu le ressort du métier, ça doit être payé dans les 3 à 6 mois, avec une possibilité de retour crédité sur le compte dans les 6 mois, donc, et ensuite, ce retour-là est crédité dans les 8 mois.
Donc, c'est bien compliqué.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il
y a un côté paperasse, en tout cas, qui.
Il y a un côté paperasse, et puis il y a aussi un côté, voilà, quel type de roulement. Et donc, c'est pour ça que les libraires, parfois, ils commandent, s'ils allaient chez un libraire, ils vont commander un livre une fois, 15 fois, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils vont ou le vendre très vite, ou alors ils vont pouvoir le retourner. Et voilà. Nous, on essaie d'éviter d'être trop dans ce roulement-là, quoi.
C'est tout un jeu stratégique, quoi, en fait.
C'est ça, à peu près, oui.
Surtout, il n'y a pas d'espace de stockage pour mettre 15 exemplaires de tout ce qui arrive, quoi.
Non, nous, on a très peu d'espace de stockage, donc on doit être assez précis.
Ça vous impose.
Ouais. Ça nous oblige, et de toute façon, voilà.
Bref, c'est pas plus mal. Mais effectivement, parfois, il faut. Les semaines où les livres partent moins, il faut se débrouiller pour quand même tous les foutre dans les rayons. Et donc là, ça devient des petits montages, des bricolages, des trucs.
Mais nous, la spécificité, justement, c'est que contrairement à des librairies plus classiques, on fait quasiment pas de retour.
Alors vraiment, ouais, on vend des tout.
On garde tout. Ouais. Oui, on vend tout, mais on garde tout.
Ah ouais, mais il n'y a pas cette démarche après 6 mois, enfin, ou 3 mois de réenvoyer à l'expéditeur de livres.
J'ai une autre petite question qui n'a, enfin, du coup, je change de sujet, mais vous êtes en lien aussi, j'imagine, avec d'autres librairies à Bruxelles qui sont tout aussi, je veux dire, engagées. Comment les liens se créent?
Je dirais que la librairie dont on est le plus proche, il me semble, c'est Parchemin à Forêt.
La librairie Berthelot,
parfois, donc rue Berthelot à Forêt, qui fait beaucoup d'occasions aussi.
C'est un bouquiniste surtout, mais qui vend aussi un peu du neuf et qui est dans le même genre de lignée que nous. Et là, on fait des échanges de bons procédés, on va dire.
Ouais,
on a des contacts avec Poetini aussi.
Poetini, c'est vrai
qu'on passe souvent. Qui est rue de Romani, qui est l'ancien Jolimet. Et puis, de temps en temps, avec Tulitu, voilà. Le monde des libraires est assez isolé.
Il n'y a pas un milieu des libraires.
Après, il y a un syndicat des librairies indépendantes francophones qui essaye de faire des trucs pour réunir un peu les libraires sur les conditions justement de vente et des conditions d'existence et qui vient par exemple qui poursuit actuellement avec l'aide de Filigrane d'ailleurs Amazon et qui les avocats d'Amazon là vont plaider à la fin du mois d'avril. Parce que, en gros, pour concurrence déloyale à partir des frais de port négatifs, et les syndicats des libraires a demandé une astreinte de 10 000 euros par infraction. Okay. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu l'exemple de quel genre de collaboration il peut y avoir de cette manière.
Après, ouais, enfin, une structure comme Filigrane et vous, c'est.
Pareil.
Ah bah, c'est pas pareil.
C'est la même chose.
Vous attaquez pas Amazon, vous.
Non.
Non.
Pas tout de suite.
Non.
Oui, en termes de partenariat ou d'amis, là, comme ça, un truc qu'il y a eu lors d'un confinement passé, c'était vous aviez aussi des livres d'un disquaire, des disques d'un disquaire, justement, enfin bref, et donc ça a fait un peu cette même approche par rapport à l'objet qu'un disquaire peut avoir, que vous avez vos livres.
Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, d'ailleurs, ce qui se passe toujours, c'est que depuis le confinement où donc ils ont refermé les commerces non essentiels, les librairies en dernière minute ont été jugées essentielles, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais ce qui était complètement absurde par rapport à d'autres magasins, comme justement les disquaires. Et donc nous, bah, il se fait qu'on a une relation amicale avec avec 72 Records, 72 rue du Midi, donc qui vend des vinyles. Et donc, bah, on lui a demandé, tu fais quoi? Bah, il fermait tout simplement. Ah. Et donc, du coup, on lui a proposé effectivement de venir déposer des vinyles chez nous. On avait une possibilité de les écouter, maintenant plus trop, mais en tout cas, il y a des vinyles chez nous. On va voir si on peut pas faire un peu plus ça en discussion avec eux. Mais c'est effectivement des collaborations aussi qui sont finalement amicales et juste parce que ça a un peu de sens. C'est des choses qu'on...
Et bon, il a aussi une approche du vinyle qui est proche de celle du livre, en fait, de celle qu'on a du livre, c'est-à-dire que il fait beaucoup de labels belges indépendants, il va chiner beaucoup. Enfin, c'est des trucs quand même assez pas pointu dans le sens élitiste, mais c'est des choses qu'on va peut-être pas forcément retrouver ailleurs, quoi.
Ouais, et ça me fait penser à un autre truc, enfin, du métier de disquaire au métier de libraire, c'est toute la partie conseil aux gens qui viennent chez disquaire ou chez vous en librairie. Comment ça se passe avec, enfin, est-ce que les gens, enfin, ouais, enfin, est-ce que les gens ont plutôt tendance à les gens demander conseil ou à faire des rayons au hasard? Je sais pas comment ça se passe. Votre impression?
Nous, je crois que nos rayons, en fait, ils ont un classement et en même temps, ils n'ont pas un classement. Mais on peut, si on s'y attarde, commencer à comprendre l'ordre des choses. Mais comme, en fait, justement, on est une petite librairie et qu'on reçoit souvent des trucs qu'on a été chercher ailleurs, en fait, nos rayons se font un peu au fur et à mesure. Par exemple, là, on commence à avoir un rayon de plus en plus grand de littérature, ce qu'on appellerait littérature étrangère, mais ça peut être turque, marocaine, japonaise. Mais aussi un rayon de plus en plus grand sur la question... de l'antipsychiatrie ou psychologie institutionnelle, etc. Donc voilà, donc ça change un peu. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui rentrent. Alors c'est un peu la question que je me pose toujours. C'est quand quelqu'un rentre, je lui dis bonjour, forcément. Et après, je lui demande est-ce qu'il a besoin d'aide. Et c'est une question presque automatique. Mais en plus, c'est vrai que moi, j'aime bien, presque trop, parfois, me mettre à conseiller des choses. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent eux-mêmes leur chemin. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient et qui me demande... voilà, est-ce que t'as un truc sur critique de la technique, mais dans cette optique-là, machin, machin. Et là, bim, on sort le fil qui nous a mené à choisir ces livres-là. Et je crois que ça, c'est un des moments les plus beaux de quand t'es libraire.
Ouais, effectivement, c'est. Et ce qui fait toujours plaisir, c'est quand on demande des conseils sur quelque chose que t'aimes vraiment beaucoup. Et que tu vois quelqu'un qui a un peu le même genre de sensibilité, mais qui connaît pas forcément les quelques titres que t'as dénichés. Et donc, du coup, là, tu sais que tu vas pouvoir lui faire plaisir, et un peu te faire plaisir de pouvoir les ressortir.
Et donc, tu vois, et donc, enfin, là, c'est tout à fait des livres que vous avez, que vous gardez en stock, toujours prêt à dégainer.
Oui, bah, disons que, en fait, il y a des livres, quand on les voit partir, on sait d'office qu'on le veut, et donc, à la limite, s'il prend un peu de temps pour revenir, c'est une chose, ça peut arriver, mais on sait qu'en tout cas, à un moment, il sera de nouveau là. Et ça, voilà, il y a des livres comme ça qui sont... ils seront là. ça fait, non, mais ça fait partie, comme disait Librairie de Fonds, machin, ça fait partie du truc, ça fait partie du corps de la librairie, c'est une pièce qui est là, quoi. Il faut qu'elle soit là.
Ouais, leur tombe quand même, enfin, dans les ambitions de départ, il y avait toute cette idée de rencontre avec des auteurs, des autrices, avec les visiteurs, clients, je ne sais pas comment on dit.
Lecteurs.
Lecteurs, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vachement mieux que clients, c'est vrai. il n'y a pas vraiment de perspective de possibilité de ça. Enfin, pas de date, mais une fois que ce sera possible, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme idée?
Bah, le truc, c'est que tout dépend de qu'est-ce qui est possible et comment c'est possible. Et donc, c'est vrai que la question de la perspective, elle est là, forcément, elle est dans notre tête. Et j'y pense quand même pas mal à ce que ça a pu être pendant un mois et demi. Je suis toujours content comme ça existe aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était différent et que c'était important. La question des perspectives, malgré tout, je pense que comme pour tout le monde, elle se détériore semaine après semaine. Mais que effectivement, qui sait si un jour, parce que l'espace n'est pas grand et tout, il n'est pas très Covid friendly ou au contraire.
Dans le cas des événements.
Dans le cas des événements quoi. Oui, dans le cas de la circulation, il n'y a pas de souci, mais si on doit commencer à regrouper des gens.
Dedans, quoi. Ouais.
Donc voilà, l'idéal c'est de faire au mieux, c'est de continuer dans cette idée-là, d'inviter des gens, de faire des choses en présentiel par contre.
C'est horrible le mot.
Ouais, c'est devenu un mot, mais c'est vrai que c'est horrible. Mais disons que effectivement pour nous ça n'a pas beaucoup de sens d'essayer de se lancer dans soit dans le virtuel parce que l'idée c'est quand même la présence soit dans le système de dédicace par exemple j'y ai vaguement réfléchi mais en fait nous on n'a pas forcément envie que une personne par une vienne vaguement discuter avec l'auteur pour faire peut-être signer son livre et tout. Quand on faisait des présentations d'ailleurs les gens ne venaient jamais faire signer leur bouquin, ils parlaient entre eux.
Ouais.
Donc pour l'instant voilà, on attend.
Et c'est beaucoup d'énergie de on a essayé un moment de réorganiser entre deux vagues des rencontres etc. C'est beaucoup d'énergie pour contacter les gens, commencer à organiser et puis déprogrammer et puis être dans l'attente si on déprogramme ou pas. Et donc là je crois qu'on a pris vraiment la résolution de tant que les conditions ne permettent pas de A à Z de faire quelque chose avec pas de fluctuation une semaine sur deux, à ce moment-là, on en réorganisera. Mais tant que c'est comme ça, ça pour nous, ça sert à rien.
Ouais, ça sert à rien.
Et ce qui est très compliqué aussi avec les événements, les trucs comme ça, quand il a commencé à avoir de plus en plus de règles et tout ça, c'est qu'en fait, on se retrouve dans cette situation très désagréable où on est obligé d'être flic chez nous et qu'on doit tout le temps faire attention que les gens aient leur masque, qu'on doit tout le temps faire attention que les gens s'assoient, qu'ils fassent pas trop de bruit, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça.
Qu'il y ait pas trop de monde,
qu'on doit refuser des gens alors qu'en fait c'est l'ami de la personne qui est à l'intérieur qui veut venir. Et en fait c'est très chiant parce qu'on se retrouve dans des situations où on risque des amendes et donc pour éviter l'amende, eh ben on est obligé d'être de faire sécurité. Plus, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc voilà.
Ouais, c'est
voilà,
pas chiant, pas à souhait. Donc, Donc ouais, quand ce sera possible, il y aura des choses.
Voilà. Oui, c'est ça.
En attendant, vous êtes une librairie, vous pouvez y aller. C'est Rue Blas 207, 207 de mémoire.
C'est ça. Ça.
Voilà. Vous avez pas de site web, vous avez une page Facebook et un Instagram.
Instagram, tout à l'heure.
Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez dernier mot, un mot de la fin, un conseil lecture.
Pas spécialement comme ça.
Une boîte que vous venez d'ouvrir avec un livre. Ah super, cette nouvelle qui vient d'arriver.
Là comme ça, à 8h50 du matin, un lundi, je ne sais pas, mais...
Le mieux, c'est d'aller vous voir, quoi.
C'est ça, oui, ce qu'elle dit, elle va nous voir.
Venez nous voir.
Après. Et donc, ouais, vous êtes ouvert tous les jours, sauf le lundi.
C'est ça.
Justement, voilà.
Le mardi de 10h30, 10h à 16h, ouais. Et sinon de 11 à 19 tous les jours. Sauf le lundi.
Yes. Donc ça sert à rien d'aller aujourd'hui.
Ouais. Non, c'est ça. Enfin, non. On y sera, mais justement pour nettoyer, ouvrir des cartons, etc. Mais c'est donc pas pour venir.
Tu veux mettre de la musique, Fred ?
Bah, j'allais dire merci beaucoup, encore une fois.
Merci à toi, merci à vous deux. Ouais.